philosophie de l'art, perfilé le 4 novembre 1982, Rimont.
Alors nous allons essayer de voir ensemble ce que représente la philosophie du facere, du faire. Comprenons bien comment la philosophie humaine implique toujours cette espèce de dialogue entre l'agir et le faire. Je crois que c'est ça le principal à saisir. On verra un peu ce qu'on va développer en particulier, mais il faut d'abord entrer dans ce point de vue-là. Ceux qui ont suivi le cours de Fribourg savent très bien que c'est ce problème-là de l'expérience de l'amour de l'amitié et l'expérience du travail qui représentent comme les deux expériences fondamentales de notre vie humaine. L'expérience du travail a quelque chose de plus fondamental, et puis de plus quelque chose au point de vue de l'extension beaucoup plus grande, parce qu'on est beaucoup plus accaparé par le travail. Et puis l'amour d'amitié est quelque chose de beaucoup plus ultime. Mais au fond, c'est les deux grandes expériences. Alors, on peut ajouter l'expérience de la coopération. Nous l'avions déjà vu, et je le souligne ici parce que je crois que c'est très important. C'est un peu le triangle de base sur lequel repose toujours toute philosophie réaliste. Toute philosophie réaliste part de l'expérience. Eh bien, nos trois grandes expériences, c'est l'expérience du travail, de la coopération et de l'amour d'amitié. Par le point de vue de l'amour d'amitié, je découvre la personne humaine, l'ami. Par le travail, je découvre la matière. Par la coopération, je réalise le bien commun. Un bien commun. Ça, c'est, il faut essayer de comprendre ça, que c'est vraiment cela qu'il y a de fondamental dans notre vie humaine. Toute notre activité humaine se ramène toujours à ces trois dimensions qui sont quasi inséparables. On se posera la question de savoir si de fait on peut découvrir une opération du facere qui est complètement libre de l'agir. Ou est-ce qu'il peut y avoir un agir qui est complètement, qui dépasse complètement le facere. Vous voyez, ça c'est, l'agir c'est ici. L'agirait et le facirait. La coopération, elle implique toujours agir et faire. C'est impossible autrement. Vous ne pouvez pas coopérer avec quelqu'un uniquement au point de vue moral. La coopération implique toujours une certaine dimension d'efficacité. Vous coopérez à cause de l'efficacité. Et donc, le facturé intervient, puisque le facturé, c'est la philosophie de l'efficience, c'est la philosophie de l'efficacité. Et pour que, de fait, les hommes puissent coopérer, il va y nécessairement y avoir un certain lien d'amour, d'amitié. Sauf que dans la coopération, il y a toujours les deux, c'est absolument impossible autrement. C'est du reste intéressant, parce que ça nous fait comprendre que nous ne pouvons pas comprendre le problème de la coopération, et donc le problème de la philosophie politique, sans comprendre, sans analyser l'agir et le facturer. C'est ce qu'on oublie trop facilement. Alors on fait une politique uniquement d'efficacité ou une politique uniquement d'agir. Vous avez une politique moralisante ou vous avez une politique d'efficacité. Ordinairement, dans notre monde d'aujourd'hui, on a plutôt une politique d'efficacité. Je ne vois pas beaucoup dans quel pays on aurait une politique moralisante. C'est plutôt le point de vue de l'efficacité, qui est en premier lieu. Mais au fond, tout aspect politique implique les deux. Implique les deux. Je ne peux pas voir une communauté, la coopération permet de fonder une communauté. Toute communauté implique un bien commun. Tant qu'il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas de communauté. Toute communauté implique un bien commun. Et pour qu'il y ait bien commun, il faut donc qu'il y ait une coopération. Il faut donc une coopération dans l'ordre de l'efficacité, de l'efficience, et dans l'ordre d'une certaine finalité. Donc il faut l'agir et le faire. Intéressant du reste à noter. Quand une communauté est en crise, alors où c'est la question de l'efficience, et une crise politique, c'est l'efficience, c'est quand de fait au point de vue économique ça ne marche plus. Et si la crise va trop loin, ça fait éclater tout. Ou ça peut très bien produire aussi du fait qu'il n'y a pas assez de coopération dans le sens propre, parce qu'il n'y a pas assez de confiance les uns par rapport aux autres. S'il n'y a pas assez de confiance les uns par rapport aux autres, il ne peut pas y avoir de coopération. Chacun tire de son côté, comme il veut. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de coopération. Ceci, c'est un manque d'agir. C'est un manque de responsabilité commune. Ceci, c'est pour vous montrer, pour vous rappeler quelque chose que nous avons déjà vu, mais nous allons maintenant détacher de ce problème le problème du travail. Que nous allons détacher, que nous voyons. Toute philosophie humaine inclut donc les trois, le triangle de base. Et je crois que c'est le triangle de base de toute philosophie réaliste. Toujours. C'est ce qu'appelle la philosophie humaine. La philosophie humaine implique les trois. Je ne peux pas uniquement ramener la philosophie humaine au travail. Je ne peux pas ramener uniquement la philosophie humaine à l'amitié. Je ne peux pas ramener uniquement la philosophie humaine à la coopération. La philosophie humaine implique les trois. Et au fond, ça n'implique pas d'autres dimensions, c'est ça qui est extraordinaire. Ces trois dimensions me donnent ce que représente vraiment la philosophie humaine. Vous voyez, le mariage, par exemple, la philosophie du mariage, c'est dans la coopération. C'est sûr, c'est la coopération la plus naturelle qui soit. La plus fondamentale qui soit, ainsi de suite. Et alors, après, vous avez d'autres coopérations, la coopération dans l'usine. C'est quand on travaille ensemble. La coopération d'étudiants qui écoutent le même cours. Il y a une coopération à étudier le même cours. Et donc, il y a un certain bien commun qui se fait petit à petit. Dans la mesure où vous êtes actif, il y a un bien commun qui se fait. Dans la mesure où vous êtes purement passif, il n'y a pas de bien commun qui se fait. Il n'y a pas de coopération. Alors, pour qu'il y ait un vrai bien commun, pour que la coopération se fasse. Donc vous avez tous les niveaux de la coopération qui donnent les niveaux de la communauté. Mais c'est toujours le point de vue de l'efficience et du factuel. Il faut. S'il n'y a pas d'efficience, le point de vue de la communauté se détruit. S'il n'y a que l'efficience, la communauté ne se fera jamais. Il faut qu'il y ait confiance et efficience. Et ça, c'est très net que toute crise, encore une fois, politique, provient ou d'une crise, ou d'un point de vue économique, ou d'un point de vue de confiance. Alors, c'est pour ça que c'est important d'étudier le Thatcheré pour lui-même, parce que si je n'étudie pas le Thatcheré pour lui-même, je ne peux pas faire une philosophie politique. Parce que je ne peux pas comprendre ce que c'est que la communauté humaine. Pour comprendre ce que c'est que la communauté humaine, il faut nécessairement une certaine efficacité, une certaine efficience commune. Donc, il faut étudier ce que c'est que le factuel. Alors, je vais regarder ce que représente le factuel. Je vais voir ce que représente le factuel dans l'expérience du travail. Au fond, le travail exprime de la manière la plus nette ce qu'est le Thatcheré. Qu'est-ce que c'est que le Thatcheré? Réalisation du neuf. Et cette réalisation du neuf se fait par le travail. C'est la réalisation sur le dos de quelqu'un d'autre du neuf. C'est ça quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose. Vous réalisez quelque chose. Et vous réalisez quelque chose en vous servant d'une matière. Alors, il y a un petit problème qui serait intéressant à noter ici, qui serait tout à fait un problème préliminaire. Pourquoi ne pas appeler ce cours un cours d'esthétique? Et pourquoi on l'appelle philosophie du travail? Oui, c'est au fond assez différent, l'esthétique et la philosophie du travail. Alors, pourquoi appeler ce cours philosophie du travail ou l'étude du facturé pour l'activité artistique et non pas d'esthétique? Il faut comprendre, ça fait tout de suite une petite objection, ça, vous voyez, avant d'étudier le point de vue du travail, la complexité du travail. Alors, je veux tout de suite la soulever. L'esthétique, c'est relativement récent, comme la philosophie du travail, hein, c'est encore plus récent, d'une certaine manière. Parce qu'on pourrait dire que c'est marxiste, c'est la praxis, eh bien, c'est assez récent, c'est sûr. L'esthétique, c'est le XVIIe siècle. Aesthésis, hein, c'est-à-dire une philosophie de la sensation, une philosophie du sensible. C'est le point de vue esthétique, c'est le point de vue de la sensation. Alors, esthétique a pris une tonalité différente en voyant que, de fait, l'esthétique, c'est l'étude du beau. On dira ça assez facilement. L'esthétique, c'est l'étude du beau. La morale, c'est l'étude du bien. Alors, on pourrait dire ça. Que la morale, c'est l'étude du bien. Et l'esthétique, c'est l'étude du beau. Alors, pourquoi pas étudier le beau? C'est intéressant d'étudier ce que c'est que le beau, à la différence du bien. On fera peut-être, c'est peut-être une des choses qui nous intéresserait de faire, c'est l'étude du beau, parce que c'est quand même... Là, je suis persuadé que vous avez tous des tas d'idées intéressantes, et ce qui serait intéressant alors au terme, vous voyez, c'est de faire une étude sur la liturgie. Une étude philosophique sur la liturgie. Ce serait très intéressant. Par rapport à ce boulot, on pourrait étudier quel est le caractère particulier de la liturgie de la communauté Saint-Jean. Oui. Il faut penser ces choses-là. C'est dans la mesure où on les pense que ça devient, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Autrement, on peut rester complètement étranger. C'est intéressant de voir que, de fait, hein, puisque l'homme est un homme religieux, il y a donc, au point de vue coopération, une coopération religieuse. Et quelle est la coopération religieuse? C'est la liturgie. C'est la coopération religieuse. En vue d'un bien commun qui glorifie Dieu. Et qui fait partie d'un bien commun. Et c'est ça qui est terrible, n'est-ce pas, dans le point de vue liturgique actuellement, c'est qu'il n'y a aucune pensée liturgique. Vous avez l'histoire. Quand on vous donne un cours de liturgie, on vous fait l'histoire de la liturgie. Mais on ne vous donne pas du tout une théologie de la liturgie. Parce qu'il n'y a pas de philosophie du travail. Parce qu'il n'y a pas de philosophie du beau. Parce qu'il n'y a pas de philosophie de la coopération dans l'ordre du travail. Alors il ne peut pas y en avoir. C'est très vrai, vous avez un aspect liturgique alors assez mystique, à la manière de Denis, si vous voulez, c'est très intéressant. Mais ça manque de structure philosophique. Et c'est pour vous montrer que ce problème de la philosophie et le problème de l'esthétique est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, pourquoi je prends philosophie du travail, philosophie du facturé, philosophie de l'activité artistique et non pas esthétique? Ça pourrait être intéressant à voir. Pourquoi je prends philosophie du travail et de l'activité artistique et non pas, comme Dufresne, phénoménologie de l'œuvre? Encore une autre chose, vous voyez. C'est intéressant toujours de regarder les noms différents qui essaient de regarder la même réalité. Pourquoi y a-t-il des noms différents et pourquoi de fait on regarde les choses dans des perspectives assez différentes? Alors, je maintiens philosophie de l'activité artistique. Pourquoi? Parce que je pars de l'expérience. Et l'expérience, c'est le travail. Le travail est commun à l'artiste et l'artisan. Le travail est commun à tout homme qui réalise quelque chose. Et le travail joue dans ma vie une place primordiale et essentielle. Quand vous regardez le nombre d'heures dont vous travaillez, et le nombre d'heures dont vous dormez, et le nombre d'heures dont vous mangez, et le nombre d'heures dont vous priez, vous voyez que ce qu'il en pense, c'est le travail. Un homme ordinaire, hein, je ne sais pas pour quelqu'un qui ne fiche rien, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais pour quelqu'un qui travaille, c'est le travail qui, de fait, joue un rôle primordial dans toute notre vie. C'est pour ça que c'est le travail qui nous conditionne le plus. Le travail nous conditionne plus que tout le reste. Je dis bien conditionné dans notre corps, notre attitude. Parce que c'est, ça nous saisit dans toutes nos activités. Et puis ça met des plis particuliers. Alors, il faut essayer de comprendre la philosophie du travail, parce que je suis près de l'expérience du travail. C'est pour ça que je dis, le travail, c'est une activité artistique. Je ne sais pas si c'est l'activité fondamentale, mais c'est une activité artistique. Tandis que si je prends esthétique, le mot esthétique est né dans un climat idéaliste. Climat allemand idéaliste, de la philosophie allemande idéaliste. Et le mot esthétique exprime la sensation que j'ai. Vous voyez, c'est subjectif. C'est l'aspect des sensations. Oui.
Pourquoi est-ce qu'on a rapproché des questions du philosophe ? Pourquoi et comment ? C'est-à-dire, comment je vais un peu de l'extérieur, si vous voulez la face extérieure, c'est l'esthétique, c'est je ressens vraiment les sensations.
Oui, c'est personne et sensation. C'est personne et sensation. C'est le point de vue de la sensation prise pour elle-même. Vous voyez ? Les sensations prises pour elle-même. Et là, il y a quelque chose de juste dans l'esthétique. Hein, il ne dit pas que c'est faux. Il dit, pourquoi je prends plutôt. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Quand j'ai commencé à essayer le cours de philosophie de l'art, pourquoi on disait philosophie de l'art. Au bout d'un certain temps, j'ai dit non, c'est pas philosophie de l'art. Alors, philosophie de quoi? On devrait dire philosophie de l'homo faber, de l'homme réalisant quelque chose. Alors, l'homme réalisant quelque chose, parmi les éléments du travail, et parmi les éléments de l'activité artistique, il y a l'aspect sensation. Donc il y a esthétique. Mais ce n'est pas aussi vaste. C'est un élément. Oui. L'esthétique est un élément pour moi de la philosophie de l'activité artistique. Dans l'activité artistique, je parle du travail et j'implique l'esthétique. Comme j'implique la philosophie de l'œuvre. Mais je ne dirais pas une philosophie de l'œuvre, comme si la philosophie artistique regardait uniquement l'œuvre. Et c'est pour ça que Dufresne dit phénoménologie de l'œuvre. Phénoménologie esthétique qui en réalité c'est la phénoménologie de l'œuvre. Différentes dimensions du travail. Et parmi les dimensions du travail, vous trouvez, c'est ce que nous allons faire tout de suite dans un instant. On va voir parmi les diverses dimensions du travail, le point de vue de la sensibilité. Le travail regarde tout le corps humain. C'est pour ça que la philosophie du travail, elle est celle qui, d'une certaine manière, est la plus synthétique. Parce que je ne peux pas parler du travail sans parler du corps. Je peux parler d'amitié, l'amour d'amitié aussi va me dire le point de vue du corps, c'est sûr, dans l'amour d'amitié, puisque c'est moi-même qui aime l'autre, et donc le point de vue du corps, mais pas de la même manière. Dans la philosophie du travail, le point de vue du corps et le point de vue de la sensibilité, donc le point de vue esthétique, est essentiel. Vous voyez ? La connaissance qui est impliquée dans le point de vue du Bachelet, et d'une connaissance qui est toujours liée à la sensibilité. Je ne peux pas avoir un travail abstrait, si vous voulez, voyez, c'est ça que je veux dire. Évidemment, je peux faire une spéculation métaphysique loin du sensible, c'est donc avoir là un travail intellectuel, mais ce n'est pas le travail tout court, c'est le travail intellectuel. Je peux faire de la logique loin de la sensibilité. Ouais. Rien n'est plus loin de l'esthétique que la logique. D'une certaine manière. Mais est-ce que c'est l'être de raison? Donc c'est très très loin. Mais c'est un travail particulier qui, lui, est coupé du sensible. Alors que le travail normal de l'artiste et de l'artisan, il est lié à la sensation. Il est lié à l'œuvre. De sorte que philosophie de l'œuvre, esthétique, eh bien tout ça c'est partiel. J'aime mieux dire philosophie de l'activité artistique ou philosophie du facere pour essayer d'exprimer tout ce qui est infiniment. C'est vraiment ça pour... Parce que c'est important, les questions de nom, les questions de ça oriente déjà, quand je dis esthétique, quand je dis philosophie de l'art, je suis orienté dans une piste. Je suis orienté dans un sens. Je m'oriente d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne dis pas esthétique à cause de ça. Je dis philosophie du travail ou philosophie de l'activité artistique ou philosophie du facere. Et non pas esthétique et non pas philologie. Mais, encore une fois, je reconnais que dans l'esthétique, il y a un élément essentiel de la philosophie du facere. Et je reconnais que l'œuvre est un élément essentiel de la philosophie du facere. Mais l'activité artistique est plus ample. Oui. Alors, regardons maintenant. Je vais regarder l'analyse même du travail. Quels sont les éléments qui sont impliqués dans le point de vue du travail. Quand j'ai conscience de travailler, alors prenez un travail manuel, qui est possible. Le fait de gratter du papier. C'est un travail manuel, ce qu'on fait. Prenez des notes. C'est très manuel. La prof, c'est que si vous aviez mal à la main, vous ne pourriez plus prendre de notes. C'est manuel. Tandis que si au contraire, vous écoutiez uniquement d'un point de vue spirituel, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, plus aucune note, et vous recevriez, mais au bout d'un certain temps, vous dormiriez. Alors, ce ne serait pas avantageux, mais vous prenez note pour rester plus éveillé. Vous voyez le concret. On reste éveillé quant à ses sens externes. Et c'est ce qui nous permet de maintenir cet éveil plus grand. Alors, j'essaie de voir tout ce qui est impliqué dans le travail. Si j'oublie un élément, vous me direz. Parce que là, nous avons tous l'expérience de la chose. On est tous réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que c'est que travailler ? Travailler manuellement, faire la cuisine, travailler. Travailler à réaliser. Le travail est ordonné à une œuvre. Normalement, vous travaillez en vue d'une œuvre. Je dis normalement. Et c'est très important de comprendre ça. Que le travail est en vue d'une œuvre. S'il n'y a pas d'œuvre, il manque quelque chose au travail. Parce que le travail demande d'être équitable. Dans le sens là, que la philosophie du travail sera la philosophie de l'efficacité. Par le travail, je comprends. Vous voyez, ici, je ne vais que nommer, et après, nous analyserons ces éléments progressivement pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le travail au plan philosophique. Donc, il y a une certaine efficacité en vue de l'œuvre. L'œuvre, elle est où ? Utile ou agréable. Il semble que c'est toujours utile ou agréable. Utile ou agréable. Je me sers, donc utile, c'est l'outil. La première œuvre, c'est l'outil. Ou agréable à voir, une œuvre des beaux-arts. Une œuvre d'une statue, d'un portrait. C'est pas utile. Alors, il faut comprendre si. Alors, il peut y avoir des œuvres entre les deux, qui sont agréables et utiles, mais il semble que c'est toujours les deux grands aspects de l'œuvre, ou utile ou agréable. Et les deux font partie de ce que représente l'œuvre. Donc, le travail est en vue de l'œuvre. Pour réaliser l'œuvre, j'ai besoin d'une matière. Je travaille toujours sur une matière. Je ne peux pas travailler en dehors d'une matière. Mon travail est lié à la matière. À une matière, c'est-à-dire une capacité de transformation. Matière capacité de transformer. Je ne dis pas ce que c'est, simplement quelque chose qui est capable de transformer. Et alors, cette matière travaillée, Quand j'œuvre dans la matière, j'aboutis à l'œuvre. Quand j'œuvre dans la matière, j'aboutis à l'œuvre. Œuvrer. Va travailler, c'est œuvrer. Vous savez que le mot travail est très récent, au fond, point du français. C'est très récent, travailler. Avant, on disait œuvrer. On parlait, et c'est presque mieux. C'est lié à ergon, c'est lié à l'œuvre. Et on dit œuvrer, c'est mieux, c'est mieux, mais c'est toujours. Je peux dire travail, parce que maintenant, c'est appliqué. On travaille une matière en coopérant avec cette matière. Pour coopérer d'une manière plus efficace. Plus efficace. Je me sers d'outil. L'outil n'est pas premier du tout. Parce que j'ai commencé à travailler d'abord sans outil. Puisque la première chose que j'ai réalisée, c'est l'outil. Et la première chose réalisée, donc c'est l'outil, c'est l'œuvre utile dont je me sers. C'est le serpent qui mord sa queue. Je réalise une œuvre et je me sers de cette œuvre pour réaliser autre chose. Alors l'œuvre est impliquée dans l'efficience pour réaliser une autre œuvre. Alors ça pourrait être une œuvre plus agréable. Je ne comprends pas, c'est une œuvre. Il y a le lien entre les deux. Donc je me sers de l'outil. Je me sers de l'outil pour réaliser une œuvre d'une manière plus rapide, plus efficace. Question de rapidité. Je me sers de méthode. J'ai réalisé une première chose. J'ai vu que j'avais perdu du temps. J'ai réfléchi sur le fait de perdre du temps. Ah, alors, vous voyez, tout de suite très intéressant. C'est que la question du travail est liée au temps. Vous dites vous-même, je travaille tant de temps. Tandis que vous ne pouvez pas dire que l'amour d'amitié est lié au temps. J'ai aimé une heure. Le temps de l'horizon. J'ai aimé une heure. C'est terrible de dire ça. Parce qu'au fond, l'amour est au-delà du temps. Tandis que le travail est dans le temps. Je mesure le temps que je travaille. Il est lié au temps. On verra pourquoi. J'essaie de comprendre. Et je me sers de l'outil pour pouvoir gagner du temps. Bien évident. Quand je me sers d'une auto, je gagne du temps. Alors, quand je vais ici, j'ai moins besoin d'outils. J'ai quand même des outils puisque j'ai des sandales aux pieds. Donc, c'est quand même un outil. Et c'est un outil pour me protéger. Le vêtement est un outil. C'est évident que le vêtement est un outil. Ça peut être un outil utile, un outil agréable. Ou un outil vulnérable. Ça peut encore arriver, ça, parce qu'il peut y avoir le vêtement au niveau proprement sacré. Alors, vous voyez, il y a des œuvres sacrées. Il y a des œuvres liturgiques qui sont sacrées. C'est pour essayer de. Vous voyez, il faut progressivement, on essaie d'analyser. Et c'est intéressant parce que c'est dans des domaines très différents, le sacré et l'utile, l'agréable. Dans l'ordre de l'utile, vous avez l'outil, vous avez l'aliment. Premier travail qu'on fait, c'est pour l'outil et aussi pour l'aliment. Je travaille la terre pour l'aliment, pour avoir de quoi me nourrir. Donc, on se sert d'outil, on se sert de méthode. Quelle différence y a-t-il entre l'outil et la méthode? C'est que l'outil est plus immédiatement lié à la réalisation du travail et la méthode, c'est beaucoup plus lié à l'intelligence qui réfléchit en travaillant. L'outil est plus lié à la main. En vue d'une efficacité plus grande, et la méthode, elle est plus du côté de la raison. Elle est au fond l'outil de la raison. Et l'ordinateur est une méthode, à ce point de vue-là. L'ordinateur est une méthode, c'est l'instrument de la raison. Et c'est un instrument de la raison qui lui permet de gagner du temps. Et de gagner un temps énorme. Oui, c'est intéressant de voir outils et méthodes comme tout de suite, comme engagés dans l'efficacité du travail, en vue de l'œuvre, pour que l'efficience soit meilleure, pour que l'efficience soit plus parfaite. C'est pour ça que je me sers d'un outil et je me sers d'une méthode. Si j'avais tout le temps, j'essaierais de le faire à la main. Il y a des choses qu'on n'arriverait jamais à faire à la main. Et quand on fait avec un outil. Donc ce n'est pas une question uniquement du temps. C'est aussi une question de précision, une question de pénétration, une question d'efficacité, tout simplement. Le travail, c'est donc cette réalisation en vue de l'œuvre. Cette réalisation de celui qui travaille, l'homme, et la matière. C'est l'homme face à la matière. Et c'est l'homme qui transforme la matière. Il transforme maintenant en vue d'eux. Mais c'est l'homme qui transforme la matière. C'est donc le dialogue de l'homme et de la matière, le travail. Alors on peut très bien opposer les deux. Mais au fond, le travail unit les deux dans la coopération. Je suis proche de la matière quand je travaille. Dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Alors voyez, qu'est-ce que ça peut aller quand on chose. Parce que c'est la fréquentation de la matière, le travail. Alors on comprend très bien comment il peut y avoir dans le travail un aspect qui a du... un aspect qui est lourd à porter. Alors il faudra comprendre, est-ce que le travail nécessairement fait cela? Ou est-ce que c'est un travail qui est trop lourd à porter, trop lourd à dépasser? Donc l'homme travaille en se servant d'un outil, en se servant d'une méthode, en vue de transformer la matière, et en vue d'une œuvre. Le but, je ne dis pas la fin, je dis le but. Le but du travail, c'est l'œuvre. Quand il n'y a pas d'œuvre immédiate, le travail risque d'être considéré comme vain. Et alors, voilà, effectivement. Le travail en série, quand vous ne voyez jamais le terme, quand vous ne voyez jamais la fin, quand les intermédiaires sont tellement forts, les intermédiaires c'est l'outil, c'est la méthode, sont tellement puissants que vous ne voyez jamais le terme, vous ne voyez jamais la fin. Alors à ce moment-là, on comprend qu'il y a une crise dans le travail. Parce que vous ne saisissez plus la signification profonde du travail. Le travail prend toute sa signification, non pas par la matière, mais par l'œuvre. C'est l'œuvre qui donne la signification au travail. Je travaille pour l'œuvre, en vue de cette signification. C'est l'homme travailleur, donc c'est l'homme qui travaille. L'homme travaille où? C'est là où il faut bien comprendre les deux aspects. L'homme travaille où? Parce qu'il veut réaliser un projet. On va étudier ce que c'est. Où l'homme veut réaliser un travail pour imiter. Il imite un modèle qu'il s'est donné, qu'il a accepté. C'est deux aspects très très différents. Alors ça c'est du côté de l'homme. Je vais imiter cette chose très très belle qui m'intéresse. La polycopier. On a un travail énorme de copie aujourd'hui. On polycopie tout ce qu'on voit. Quand vous photographiez, hein, c'est imiter, regarde. Ou bien alors, il y a un projet, alors ça, c'est beaucoup plus astucieux, c'est l'homme inspiré. L'homme inspiré a un projet. Et ce projet va se réaliser à travers le travail. Mais ce projet et d'abord dans le cœur de l'homme, dans le cœur et dans l'intelligence. Parce que les deux sont source du travail, les deux. Source cachée. Voilà les différents éléments. Je peux en ajouter un autre. Je peux travailler avec quelqu'un. Je peux travailler seul. Travailler avec quelqu'un, travailler seul, va constituer une modification dans mon travail. Et dès que je coopère avec quelqu'un d'autre, mon travail n'a plus tout à fait la même signification. Donc, il y a un milieu. Il y a un milieu de travail qui est très important. Le milieu de travail peut ou intensifier l'effort du travail, ou au contraire, l'inhiber complètement. Il y a des milieux qui stérilisent. Et il y a des milieux qui encouragent et qui portent. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est, les artistes sentent ça très fort. Les artistes, immédiatement, il y a des milieux dans lesquels ils sont incapables de composer quelque chose. Ça stérilise complètement. Et c'est difficile à savoir ce que c'est. Alors, on dit, oh, c'est subjectif. Alors, c'est évident, c'est subjectif, c'est réel. C'est subjectif, c'est imaginatif. Mais oui, c'est imaginatif, c'est sûr, mais c'est réel. Il y a des artistes qui ne pourront jamais composer dans tel ou tel lieu. Qui ne pourront rien trouver du tout. Alors voyez ça, le phénomène. Hein, le phénomène ici, de l'homme, qui est l'homme inspiré, projet. Cette inspiration et ce projet va impliquer tout un milieu. Il est donc en contact avec le milieu. Et ce contact avec le milieu, on va l'appeler, justement, par ses sensations. L'inspiration, déjà, est première, elle présuppose des quantités d'expérience à l'égard d'un milieu dans lequel on est. Il y a des milieux qui nous aident, il y a des milieux qui sont lourds à porter. Très délicat à saisir ça au point de vue profond. Il y a des milieux qui nous aident, il y a des milieux qui nous portent, il y a des milieux qui sont lourds à porter. Et il suffit des fois d'un petit rien du tout. Parce que le même milieu qui a été lourd à porter peut devenir au contraire après un milieu qui nous porte. Et ça, c'est de, vous voyez, c'est de l'ordre artistique, c'est pas de l'ordre moral. Il faut bien distinguer ces choses-là. C'est pas de l'ordre moral. L'homme vertueux, ça lui est égal. Il produira son lait partout. N'est-ce pas? Tandis que l'homme artistique, il est dépendant d'un milieu. Ça, c'est pas une artistique. Il y a quelque chose de particulier comme contact avec le milieu, contact avec ceux qui travaillent. Avec ceux qui travaillent, parce que ça forme un autre milieu. Ça, c'est le milieu du travail. Il y a le milieu de l'inspiration et le milieu du travail. C'est curieux. Et c'est vrai qu'il y a le milieu d'inspiration et le milieu du travail. Le milieu d'inspiration, c'est du côté de la sensation. Le milieu du travail, c'est du côté, alors, la coopération. Exactement comme il y a des artistes qui ne pourront pas travailler avec tel outil. Si vous supprimez ces outils, ils n'arriveront pas à travailler. Ils ont besoin de tel ou tel outil. Ils ont besoin de telle ou telle méthode. Ils ne pourront pas travailler autrement. Alors vous pouvez évidemment leur demander de travailler avec un... Mais ils ne travailleront pas de la même chose, de la même façon. Oui. Au fond, le travail, hein, si j'essaie maintenant, je crois que j'ai noté toutes les dimensions du travail. Vous voyez l'analyse philosophique, hein? L'expérience du travail, qu'est-ce que c'est que le travail? Bon, j'analyse. Alors, on va mettre progressivement, on va qualifier ces différents aspects. Hein. Et c'est important de voir que, de fait, tous ces aspects sont impliqués dedans. Alors, je pourrais ajouter ce que c'est l'homme travailleur. Alors, l'homme travailleur. Dès que je touche à l'homme, où est le point de vue éthique? Le point de vue éthique n'est pas indifférent. Le point de vue éthique n'est pas indifférent au point du travail. J'ai une volonté de m'y mettre à mon travail. Ça, c'est d'ordre éthique, c'est d'ordre moral. Je veux faire attention. Je veux m'y mettre, je veux m'engager dans mon travail. À ce moment-là, c'est de l'ordre éthique. C'est une question de volonté. Là, le point de vue moral intervient. C'est très vrai, le point de vue moral intervient. Le point de vue moral enveloppe l'homme travailleur. Et le point de vue moral va intervenir aussi ici. je travaille avec quelqu'un. Si j'ai aucune confiance avec lui, si je ne l'aime pas, ça c'est moral. Si je ne l'aime pas, je peux l'aimer, je peux faire un effort d'aimer mon prochain. Je peux faire un effort de m'éveiller dans l'amour et dans la confiance. Si j'ai confiance avec lui, si je l'aime, ah, ça ira beaucoup mieux. Si au contraire, je ne regarde que l'autre comme un ennemi, j'ai une petite haine qui pousse. Alors à ce moment-là, comment voulez-vous coopérer? C'est impossible, ça grince tout le temps. C'est impossible, il n'y a pas possibilité de coopérer. Donc la morale doit réintervenir ici. La morale n'intervient pas du tout du côté de l'inspiration. Mais la morale va intervenir du côté de travailler avec quelqu'un. Ça c'est sûr. Est-ce que la morale intervient du côté de l'outil? Est-ce qu'elle intervient du côté de la méthode? Non. Donc il y a des points sur lesquels le point de vue moral va intervenir, va s'infiltrer. Vous savez, dans son encyclique sur le travail, le Saint-Père dit qu'il il faudrait dire qu'il y a une vertu pour le travail, l'ardeur au travail. Bon, il sait très bien, parce que il est philosophe, il sait très bien ce que ça veut dire. Parce que la vertu regarde le point de vue moral. C'est très vrai, la vertu regarde le point de vue moral. Donc, au sens strict, il n'y a pas de vertu du côté du travail. Mais il peut y avoir une ardeur au travail. Et l'ardeur au travail, alors, regarde un point de vue éthique. C'est très vrai. On peut travailler avec plus ou moins d'ardeur. Mais c'est l'éthique, ça n'a rien à voir avec le travail comme tel, donc ça n'a rien à voir avec le facturé. Vous voyez, c'est pour vous montrer que, de fait, dans le travail et dans le point de vue moral, les deux choses se tiennent. Et alors, il y a une question très intéressante, on l'avait traité longuement une année à Fribourg, c'est de savoir, y a-t-il un amour du travail? Et est-ce que l'amour du travail est éthique ou il fait partie du facturé? J'aime travailler. J'aime faire de la métaphysique. Ça me redonne un peu de bonne humeur. Quand je n'ai pas fait du tout de métaphysique dans ma journée, je suis de mauvaise humeur. Tandis que si j'ai pu faire 2 heures de métaphysique, ah, ça c'est merveilleux, le ciel bleu apparaît immédiatement. Alors, l'amour du travail, je dis ça, ou autre chose, la métaphysique, ou faire des icônes, n'est-ce pas, ou faire de la broderie. C'est l'amour du travail. Il faut faire la cuisine. J'aime faire la cuisine aussi. Et si je ne fais pas 2 heures de cuisine par jour, je suis de mauvaise humeur. Alors, cet amour du travail est-il quelque chose d'ordre éthique ou est-il de l'ordre du facere? C'est très difficile à répondre. Et c'est important, je vous dis, parce que c'est important de savoir ça. Je crois que ça fait partie du facere. L'amour du travail. Ce qui permet de comprendre, vous voyez, que l'œuvre peut être plus ou moins qualitative. J'avais visité auprès de Paris une usine où, de fait, celui qui avait porté un peu cela, porté l'âme, me disait, je veux donner aux ouvriers le sens d'une œuvre qualitative. Il le disait d'une façon très simple, c'était pour lui, c'était la seule manière de pouvoir lutter contre certaines propagandes qui venaient d'autres pays. Il faut maintenir une œuvre qualitative. Si on maintient une œuvre qualitative, on pourra garder le marché. Ça, c'est en économique, si vous voulez. Mais indépendamment de maintenir le marché, vous n'avez pas parlé du marché ici. Si on était au point de l'économique, on ne parlerait plus du marché. Donc on dirait l'œuvre. Avant, l'intérêt de l'œuvre, c'est le marché. C'est évident. Si cette œuvre est utile, est-ce qu'elle est utile en dehors? Parce qu'il faut pouvoir la consommer, pouvoir l'acheter. Donc c'est la question du marché qui est là en question, l'offre et la demande. Hein. C'est la question du marché qui va intervenir. L'œuvre en elle-même est utile, agréable, sacrée, en elle-même. Mais elle est plus ou moins commerciable. Plus ou moins commerciable. Alors là, c'est une autre dimension qui apparaît. C'est la dimension économique. Et la dimension économique apparaît après. Vous voyez, tandis que le question ici, nous sommes placés d'un point de vue beaucoup plus fondamental que le point de vue économique. Le point de vue, on ne le néglige pas du tout dans l'application. Le point de vue économique est d'un ordre politique, tandis que le travail est l'ordre de l'homme dans son dialogue avec la matière. Il peut intervenir quelqu'un, ça fait partie du milieu. Mais ici, le point de vue du marché serait le point de vue économique. On regarderait l'homme par rapport au marché, par rapport à sa valeur commerciale. Est-ce qu'il est peut-être, vendu ou pas ? C'est pour situer l'analyse que nous faisons. L'analyse philosophique est antérieure, vous voyez, à l'aspect économique. Il n'a rien à voir avec le point de vue économique. Je ne me sers pas de l'économie pour essayer de comprendre ce que c'est que le travail. Tandis que l'économiste, s'il était vraiment un économiste, s'intéresserait à ce que c'est que le travail. Tandis que je peux faire l'analyse du travail indépendant. Parce que c'est quelque chose qui a sa valeur en soi. Alors, voyez, réfléchissez là-dessus. Hein, vous savez bien. La philosophie, pour chacun d'entre nous, on y entre différemment. Certains peuvent y entrer par la philosophie de l'activité artistique, parce qu'ils sont assez artistes. Alors, ils entrent en philosophie par le point de vue du travail, par le point de vue artistique. C'est une entrée. D'autres sont plus moralistes, sont plus capables de comprendre l'amour d'amitié. Ça ne s'exclut pas du reste, hein, ça ne s'exclut pas, heureusement. Alors, ceux-là peuvent entrer dans la philosophie, par exemple. D'autres sont plus spéculatifs. Ah, la métaphysique, merveille. Je n'aime que la métaphysique, le reste. C'est trop proche de l'homme, tandis que la métaphysique, c'est le dépassement. Alors, ceux-là, ils entrent en métaphysique. Il faut comprendre ces modalités différentes que représentent ces dimensions philosophiques. Nous y reviendrons demain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.